Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun. Dans le cadre de nos émissions Histoire et Mémoire, nous accueillons aujourd'hui Jean-Claude Galerne qui va nous conter l'histoire de la verrerie, donc une petite entreprise industrielle qui est située dans le sud du département d'Eure-et-Loire et même plutôt dans le nord du Loir-et-Cher, puisque cette verrerie était située à Saint-Jean-Froimentel. Bonjour Jean-Claude, nous t'écoutons.
Bonjour. Oui, donc dans notre région, les verreries au XVIIe, XVIIIe siècle étaient nombreuses, notamment dans le Perche. Alors la verrerie date de près de 3000 ans avant Jésus-Christ. Certes, le verre, c'est une industrie, mais c'était aussi un art. Alors, comment l'obtenait-on ? Eh bien, il fallait déjà deux choses. Il fallait du sable, que l'on faisait fondre à 1700 degrés, mais il fallait aussi du bois pour le chauffer, et beaucoup de bois, pour l'amener, ce sable, au point de fusion. Les chimistes de l'époque ajoutaient un peu de potasse, un peu de soude, de la chaux. On trouvera d'ailleurs des fours à chaux proches des verreries dans notre région. À Verde, on en trouvera également à Cloua. Donc on fait baisser le point de fusion et les grands spécialistes du verre seront bien sûr les Vénitiens avec l'île de Murano et les verriers de Bohême. Alors en France, ce développement viendra, on peut dire, dès le XVIIe siècle, Louis XIV et Colbert, qui réussiront à débaucher des verriers de Murano pour venir travailler en France dans la forêt de Fontainebleau. Car le sable de Fontainebleau est d'une grande qualité, avec une teneur en oxyde de fer extrêmement faible, d'où un verre bien propre. Murano, à terme, s'approvisionnera en sable de Fontainebleau. La République de Venise donnera ordre aux verriers vénitiens de rentrer au pays, car ils exportaient des richesses de Venise. Et s'ils n'obtempéraient pas, ils pourraient être condamnés à mort. On déplacera la verrerie de Fontainebleau, on la déplacera en Normandie pour les abriter. Parce que c'est avec ce sable de Fontainebleau que l'on fit les glaces du palais de Versailles et également la pyramide du Louvre. Au fil du temps, la technologie, évidemment, s'améliorera et on pourra utiliser du sable dans nos régions et nous avons la chance d'avoir dans le Perche de nombreuses forêts. Nous avons les forêts de Vibray, de Montmirail, de Frédéval, de Marchenoir, donc très propices pour l'établissement de verreries. La verrerie de Rougemont est située dans l'enceinte du château de Saint-Jean-Froidmantel et verra son démarrage, on peut dire, au début du XIXe siècle, par la mise en marche par un nommé Michel Busson. Il est né, ce Michel Busson, à la verrerie de la Bulonnerie, commune de Bulou. Pezou, Bulou, la ville au clair. Et il est né, évidemment, d'un père verrier. Ces verriers sont des gens qui sont un peu mobiles. C'est-à-dire qu'ils vont d'une verrerie à l'autre. Il y a donc un certain nombre de verreries dans la région. Et les verreries souvent s'installent près des châteaux, parce que c'est une richesse. Cette verrerie où va naître Michel Busson était installée avant au château de Mauvoisin, dans la forêt de Frédéval. Puis elle a été transportée à quelques centaines de mètres près de Richeret, où il existe toujours l'étang de la verrerie. Et d'ailleurs, les Américains, les pilotes dont on parlait une fois, qui étaient cachés dans la forêt, allaient se baigner dans l'étang de la verrerie. Ce Michel Busson est né le 7 décembre 1756 à Bulot. C'est un fils et petit-fils de verrier, de maître verrier, parce qu'à l'époque, c'est un titre. C'est le troisième fils de Mathurin Busson et de Madeleine Labbé, surnommée pour sa beauté la reine de Hongrie. À l'époque, c'est une femme qui fait près d'1m75. Imposante, blonde, très fort caractère. D'ailleurs, elle sera à son tour un jour maître verrier. Mathurin, le père de Michel, qui allait diriger la verrerie de Rougemont à Saint-Jean-Froid-de-Montaigne, était né à Cormes, dans la banlieue de La Ferté-Bernard. Il a été baptisé à Coudrecieux. Coudrecieux, c'est un village où il y avait une verrerie importante. Mathurin avait débuté comme apprenti verrier à la verrerie de Vaujour, à Château-Lavalière. Puis, il était devenu directeur de la verrerie du château de Cherigny, sur la commune de Chenu. Et les fantaisies de l'histoire. Le château de Cherigny appartiendra à une famille bien connue dans la région en 1797. Celle de la rue du Camp. Et là encore, clin d'œil à l'histoire. Aujourd'hui, habite à Saint-Jean, Madame Reynaud, née de la rue du Camp. Les verreries se rencontrent. Mathurin donc exerce son art de verrier à Bulou, où naît Michel, mais il voyagera, tant à la verrerie de Coudrecieux, puis à celle de Chêne-Bideau, la verrerie de Montmirail, au Plessis-Dorin. Plessis-Dorin, en 1800, c'était 160 ouvriers, 46 enfants et 104 chevaux. Ces verreries sont toujours en limite de forêt, parce que nous avons besoin de bois. Mais ce n'est pas du bois noble, c'est du bois de taillis, du bois qu'on sait, on ne sait plus quoi en faire, donc on le brûle. Évidemment, la verrerie est très intéressante parce qu'elle achète tous ses bois. Alors, Michel, qui est né donc à Bulou, est un joli garçon, un peu bègue. C'est le troisième de la famille. Mais ils sont tous un peu agités. Le premier, donc évidemment, qui s'appelle Mathurin, comme le papa, est verrier à Montmirail. Et il n'est pas très doué en affaire. Enfin, façon de parler. Parce qu'en 1777, il va épouser une fort jolie parisienne, Catherine Adelfiat, qui lui apporte sans même 100 000 francs de dot. Donc il va se dire, après tout, être verrier, oui, mais je vais être verrier, mais à Paris. Parce que, quand même, bon, Montmirail, c'est un petit village. Hein. Donc je vais être. Et il va monter une verrerie rue Saint-Honoré à Paris. Évidemment, comme il n'est pas doué pour les affaires, il fait faillite. Il va en monter une autre au quai de la Râpée. Il fait encore faillite. Il achète un magasin de verrerie rue Saint-Honoré. La rue. Il fait faillite. Et c'est en 1788. Et là, il commence à voir les créanciers qui le bousculent un petit peu. Sa femme, Adèle, va mourir. Qu'est-ce qu'il fait ? il part en Angleterre. Il se sauve en Angleterre. Parce que s'il reste en France, il va aller en prison. Et il va rencontrer une Française qui s'appelle Marie Bruère. Et ce nom est intéressant parce que on va voir que le nom de Bruère va s'associer à la Verrerie de Rougemont beaucoup plus tard. Ce Mathurin est vraiment d'une famille très agitée parce que le deuxième frère, qui va être maître d'école à Pezou, il va mettre un bazar pas possible à la Révolution. Et le Michel, qui va prendre la verrerie de Rougemont, qui va devenir... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la révolution dans le secteur. On le craint à Châteaudun, à Vendôme. Parce qu'à Châteaudun, il s'est associé avec un franc-maçon dénommé Duval. Et ils font la chasse aux curés, parce que ils ont les curés dans la ligne de mire, et notamment... Il y en a un, on ne sait pas trop pourquoi, il ne l'aime pas du tout, c'est le curé de Chapelle-Guillaume. Il ne peut pas voir le curé de Chapelle-Guillaume. Pendant ce temps qu'il fait la révolution en France, le Mathurin est en Angleterre, lui le premier des frères. Et comme il est là-bas en Angleterre, il trouve que ça ne fait pas terrible de dire qu'il s'appelle Busson. C'est pas... Et il dit, comme il y a beaucoup d'émigrés en Angleterre, je vais ajouter à mon nom le nom de la ferme où je suis né. La ferme du château de Chérigny, la ferme de la famille de la rue du Camp. La ferme s'appelle Dumouriez. Et il va dire, je m'appelle Monsieur Mathurin Busson Dumouriez. Et c'est intéressant, parce que cette famille Dumouriez deviendra extrêmement célèbre parce que nous aurons un jour une jeune femme qui va naître en 1907 qui s'appelle Daphné Dumouriez, le grand écrivain Daphné Dumouriez, qui va notamment écrire l'auberge jamaïque, Rebecca, les oiseaux et une trentaine de titres. Et rappelons-nous les oiseaux adaptés au cinéma par Hitchcock. Et cette Daphné Dumouriez est donc issue de cette famille Busson dit Dumouriez. Et Michel va acheter une belle maison parce que bon, la Révolution, ça va un petit peu, 1792-95. Et en vieillissant, il va devenir un peu notable à Vendôme. Et il va acheter une belle maison à Vendôme.
Eh bien, faisons une petite pause musicale. Reprenons notre histoire de la verrerie de Saint-Jean-Froimentel.
Donc, notre ami Busson, Michel Busson, va revendre sa maison de Vendôme et il va acheter la verrerie de Saint-Jean-Froimentel. Alors, c'est vrai que c'est un bon verrier. C'est un bon verrier. Il s'est formé, il a fait son tour de France un petit peu. Il est allé en Berry, il a fait... toutes les verreries du Perche, donc il a vraiment une expérience, indiscutablement. Et cette verrerie, évidemment, il va avoir du mal à faire fonctionner, parce que, comme son frère, il n'est pas doué pour les affaires. C'est un bon verrier, c'est un excellent ouvrier, on dirait aujourd'hui peut-être le meilleur ouvrier de France, mais ce n'est pas un gestionnaire. Alors, il va voir le sous-préfet de Vendôme en lui disant « j'ai des problèmes ». Alors le sous-préfet écrit au préfet « Je n'entre pas plus en détail avec vous, citoyen préfet, mais les talents du citoyen Busson, son activité, l'avantage d'un pareil établissement sont des motifs assez prégnants pour vous en assurant le citoyen Busson du désir que vous mettriez à l'obliger. Je ne lui ai pas caché que vous seriez peut-être contrarié pour réussir suivant son vœu et ses bons soins, mais je lui ai promis que vous faites toujours l'amour du bien public, que je trouve réuni à son propre intérêt et que je sais que vous ferez tous vos efforts pour soutenir cette verrerie qui donnerait une activité nouvelle à ce territoire. Le citoyen Busson, qui a formé l'établissement de la verrerie de Rougemont, se trouve plus embarrassé que jamais. Il vient de Paris, où il croyait, sur des propriétés qu'il donnait comme garantie, trouver des fonds, mais il a été abusé et on ne lui a pas prêté. Cependant, citoyen préfet, vous connaissez l'utilité de cette verrerie, le bien qu'elle ferait dans le pays et la situation avantageuse où elle se trouve. Serait-il possible d'obtenir une avance du gouvernement sur les biens qu'offre pour garantie le citoyen Busson? Ce serait une caution suffisante que souhaite le citoyen Busson. Alors, évidemment, c'est que ça ne se passe pas bien. Et au bout de quelques années, il va être obligé de revendre cette verrerie. Et cette verrerie qui est revendue, on en a l'inventaire. Elle consiste en une halle pour le four, une chambre de large, deux calots, une carquière, une chambre à composition, etc., que les ouvriers employés aujourd'hui sont au nombre de 38, à savoir un contremaître, un commis, un fondeur, un tailleur et un graveur, 5 ouvriers chefs, 5 souffleurs, 5 batteurs de canne, 4 tiseurs, un culotteur, un faiseur de haras, un tout donc un serrurier, 2 scieurs de bois, 4 fendeurs, parce qu'il faut beaucoup de bois. On fabrique à Rougemont, à l'exception des glaces et des bouteilles, toutes sortes de verres en cristal. Verres neufs, pivettes et chambourins, que ces objets sont livrés au commerce en ces différentes natures, selon les demandes des marchands et au prix des manufactures voisines. Le combustible employé est le bois. Cet établissement est entouré de 15 300 hectares de bois et forêts, qu'il consomme environ 2 600 stères par an, tirés principalement des forêts de Fretval et de Marche Noire. Que l'espèce de bois destinée à cette consommation consiste en taillis de 20 à 25 ans, de bois mort, de dessous de futaie, c'est-à-dire des bois rabougris de mauvaise tenue, qui, avant l'emploi de la verrerie, pourrissaient sur source, sans utilité pour les consommateurs et propriétaires. Cette verrerie est très bien placée, sur le bord de la grande route de Paris à Bordeaux, par Chartres et Tours, très peu éloigné des villes de Blois, Vendôme, Orléans ou Châteaudun. Ses débouchés faciles ne peuvent qu'assurer sa prospérité en offrant au commerce dans ces pays dénués de ces sortes d'établissements un approvisionnement commode et aisé. Le bois est assuré par les forêts de Fretval et Marche Noire, la chaux par le four de Pohu à Clouat, rue de la Gare, qui trouve matière dans les carrières de Bredoulin. Cette verrerie ne fait pas des pièces raffinées, elle est spécialisée en matériel de chimie, des bonbonnes, il en existe encore quelques-unes dans la région. La différence de la bonbonne de la verrerie, c'est qu'elles sont cassées à la pince, parce que des souffleurs soufflent la bonbonne et cassent le goulot. Alors qu'en la mécanique, on voit le chouin. Des cloches de jardinier. Dans les années 50, le jardinier du marquis de Livine-Mirepoix avait sa cinquantaine de cloches alignées comme à la parade par son maître jardinier Georges Pichard, qui soulevait chaque matin chaque cloche pour donner de l'air à ses salades et le refermait le soir. Il en reste quelques modèles dans le secteur. Et les flacons existaient aussi, que les boucheurs à l'émerie polissaient afin qu'ils soient hermétiques. Il y avait aussi quelques fantaisies avec le bleu de Rougemont que chaque ouvrier ramenait chez lui comme trophée. Le nouveau propriétaire de la verrerie, donc, était Bessirard de la Touche. Et en 1854, la verrerie ne marchait pas bien. Il a été obligé de la vendre à Jean-François Albert du Pouget, marquis de Nadeillac, ancien préfet des Basses-Pyrénées et de l'Indre-et-Loire. C'est lui qui va embaucher un nouveau directeur-gérant en 1865. Il se nomme Gaston Bruère. Rappelons-nous, Madame Marie Bruère avait épousé Mathurin Busson du Laurier en Angleterre. Même famille. Ce nouveau directeur, lui, vient d'épouser à Paris Pélagie Ivanova Tourguenieff, la fille du célèbre écrivain russe. C'est un peu cette Pélagie qui va amener à Rougemont un peu de modernisme. Il s'installe dans la mairie des directeurs de la verrerie à Rougemont, qui est une maison indépendante du château. Ils sont heureux. Deux enfants naîtront à Saint-Jean-Fond-de-Mantel. Jeanne Marie Victorine Pauline, le 18 juillet 1872, et Georges Albert en 1875. Donc les petits-enfants de M. Tourguenieff, le célèbre écrivain russe. Cela vaudra à Rougemont de voir de temps à autre le grand-père, Ivan Tourguenieff, jouer avec les deux bambins. Enfin, quand il en a le temps, car grand chasseur, il a loué une chasse au Clos Normand sur la commune de Saint-Hilaire-la-Gravelle, dans la forêt d'Offredval, riche en gros gibier. Mais cela coûte cher, il y a beaucoup de braconniers. Et Ivan Tourguenieff va renoncer à son plaisir. Et venir à Rougemont vers 1880 n'est pas si simple. Il faut 5 heures de train de Paris à Cloyes. La gare de Saint-Jean ne fonctionne pas encore. Et ensuite, il faut louer les services d'un cocher. L'ambiance dans le couple Bruère n'est pas bonne. La verrerie ne fonctionne pas bien. On mange la dot de Pélagie. Bruère ruiné boit, menace de se tuer, de tuer Pélagie. Cette affaire a englouti 325 000 francs de 1865 à 1882, moment où le couple se sépare. Ivan Tourguenieff mourra à Bougival l'année suivante de chagrin. Monsieur de Nadeillac va trouver un directeur pour le remplacer, Monsieur M. de la Côte. Il est remarquable, ce M. de la Coque. En 1900, il a réussi à faire tourner la verrerie avec 200 ouvriers. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et chaque année, le 10 août, la marquise fête la Saint-Laurent. Parce que la Saint-Laurent, c'est la fête des verriers. Et le 10 août 1906, la marquise va rassembler tous ses ouvriers verriers. C'est un jour où on ne travaille pas. Il y a 2 jours où on ne travaille pas. Parce que faut se rappeler que les verriers, c'est du feu continu. On n'arrête jamais les foyers. Il y a 2 jours où on ne travaille pas, c'est Noël et Pâques. Saint-Laurent, c'est le patron des verriers, et ce jour-là, on ne travaille pas. Rappelons-nous, Saint-Laurent, un martyr, encore d'un des empereurs romains, avait été grillé à petit feu. La marquise est d'une rare intelligence et d'une grande bonté. Elle est adorée de toute la population verrière. Il n'est pas de malheureux à Rougemont. L'inépuisable charité de la marquise a banni la misère. Du pays, infatigable travailleuse, elle habille en partie les enfants de ses ouvriers. Le jour de la Saint-Laurent, rangé dans la cour de la verrerie, ouvriers et ouvrières, musique et bannières en tête, défilent en procession dans le parc, suivant Monsieur le curé Leclerc et ses enfants de cœur, les conseillers municipaux avec en tête Monsieur le maire Froissant et ses adjoints, Viron et Breton, la marquise sur en voiture. Le long cortège sort en face de la station de chemin de fer, puis pénètre dans le village. On arrive sur la place de l'église Saint-Jean-Baptiste, où l'on entre en bon ordre, les hommes à droite et les femmes à gauche. Après la messe, certains se retrouvent au café Saint-Éloi, avant de déjeuner en famille. L'après-midi, la marquise offre un goûter à tous les ouvriers, et c'est toute la famille de Nadeillac qui accompagne la marquise. Son fils, Sigismond, colonel d'infanterie, son épouse, née Mailly de la Tourlandry, son petit-fils, le comte de Nadeillac, on voit Madame la marquise faire avec une grâce exquise les honneurs de son hospitalité si charmante. La marquise et toute la famille président et veillent à tout pour que petits et grands soient heureux et satisfaits. Est-on socialiste à Rougemont ? Je ne le pense pas. Les grèves y sont inconnues, c'est la mutualité qui unit maîtres et ouvriers. Le soir, un banquet réunit à nouveau verriers et verrières dans la cour de l'usine, puis le tédéum est chanté par tout le personnel. Enfin, le parc s'illumine sous les fusées du feu d'artifice. La cour de la verrerie brille des lueurs multicolores, des lanternes vénitiennes auxquelles se mêlent les clartés rouges, et les jeunes ouvriers dansent la polka et la mazurka avec les filles du village. Et l'on dansera jusqu'au moment de reprendre les vêtements de travail, sans avoir beaucoup dormi, mais encore résonnante de toute la musique. Au décès de Madame la Marquise, c'est son fils Albert qui assurera la direction de la verrerie jusqu'en 1928, date de sa mort et la fermeture de la verrerie. Le village de Rougemont coûtait à cette époque, le village, 241 habitants et le village de Saint-Jean-Fondementel, près de 1000 habitants. Aujourd'hui, il en reste 500.
Merci beaucoup Jean-Claude pour ce voyage dans la verrerie, son aspect technique, ses difficultés également sur le plan de la gestion. C'est un beau voyage dans le passé.